BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Et on entame cette deuxième heure de BFM Patrimoine par un survol de l'actualité économique avec Faiza Younzi.
BFM Business, l'info éco.
La croissance ralentit un peu plus que prévu en zone euro en mai. L'indice flash PMI est en recul. L'activité du secteur privé est freinée par la baisse de la production industrielle. L'indice de l'industrie, d'ailleurs, atteint son plus bas niveau depuis 3 ans, plombé par la faiblesse du secteur en Allemagne. Les services montrent eux aussi des signes d'essoufflement au mois de mai. Dans le détail, l'économie française est toujours en expansion, mais là aussi un rythme moins soutenu. L'indice flash PMI s'établit à 51,4. On est en dessous des attentes. Le secteur des services ralentit également en France, selon l'agence S&P. De l'actualité des entreprises, l'action Casino suspendue à la Bourse de Paris à la demande du groupe. Noyé sous une dette colossale, Casino se donne jusqu'à 17h pour lancer avec ses créanciers une éventuelle procédure de conciliation. Alors son objectif serait de trouver un accord financier et alléger sa dette de plus de 6 milliards d'euros. Une étape indispensable pour avancer sur les offres de reprise de Daniel Kretinsky et de Teract. L'État français sera l'actionnaire unique d'EDF le 8 juin prochain. C'est ce qu'annonce ce matin le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, au micro de RTL. L'État a d'ores et déjà 98% des parts. À ce jour, cette renationalisation annoncée en juillet dernier a coûté 9,7 milliards d'euros. Patrick Drahi, le président d'Altis, la maison mère de BFM Business, renforce sa participation dans l'opérateur britannique British Telecom à près de 25%. Il en détenait déjà 18% en portefeuille. Premier actionnaire du groupe de télécom, il affirme ne pas envisager de l'offre publique d'achat. De l'actualité internationale, toujours pas d'accord sur la dette américaine à l'issue de la réunion d'hier soir entre Joe Biden et Kevin McCarthy, même si la rencontre a été productive. Le chef de file des Républicains à la Chambre des représentants affirme que le ton des discussions était meilleure que les fois précédentes. Il reste désormais 10 jours aux États-Unis pour éviter le défaut de paiement. Et on termine avec la riposte de TikTok. L'application chinoise a porté plainte contre le Montana. L'État américain a adopté un texte qui l'interdit dès l'année prochaine. Mais selon TikTok, cette interdiction enfreint la constitution américaine, notamment ce premier amendement qui garantit la liberté d'expression.
Merci beaucoup, Faiza Younzi, toutes les heures pour suivre l'actualité économique sur BFM Business. Ce matin, nous tout de suite, on prend la direction des marchés.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Sarah Thirion nous attend chez TP ICAP. Bonjour Sarah.
Bonjour Cédric.
Que dire de cette séance à Paris?
Un très bon résumé avant moi. Toujours la même incertitude, puisqu'il n'y a pas d'accord pour l'instant sur le plafond de la dette aux États-Unis. Les discussions d'hier ont été qualifiées de productives, pour autant elles n'ont pas abouti à un accord. Et donc, bon, voilà, on est tous à peu près persuadés qu'il finira par y avoir un accord. Ce qui sera intéressant, ce sera évidemment de détailler les efforts budgétaires sous-jacents qui seront à évaluer pour évidemment faire peut-être procéder à quelques arbitrages. En tout cas sur le front de l'économie américaine. Mais pour l'instant, on n'a pas d'accord. Et plus on se rapproche en fait de cette date du 1er juin, plus il y a quand même des chances pour que la volatilité s'empare de nos indices, tant américains qu'européens. Et s'ajoute évidemment ce PMI européen de la zone euro qui est ressorti ce matin, confirmant malheureusement que le ralentissement est là, avec une industrie qui est en quasi-récession, donc en l'espèce en zone euro, mais elle l'est manifestement au niveau mondial aussi. Évidemment, pour l'instant, une teneur de l'économie qui reste soutenue par les services, bien que la tendance décélère également en Europe au mois de mai, comme on a pu le constater à 10h ce matin. On aura la même indication tout à l'heure à 15h45 pour les États-Unis et évidemment ce sera surveillé de près. Mais on est effectivement post-publication de Q1 dans une période un peu de déshérence sur le front de la microéconomie et toujours pas mal d'incertitudes, ouais, à la fois sur la teneur de l'économie, sur la manœuvre des banques centrales Fed et BCE et sur la teneur de la reprise en Chine. Et on a vu qu'hier, la banque centrale chinoise n'avait pas bougé sur les taux alors qu'on espérait peut-être effectivement qu'elle intervienne pour donner un peu de dynamique, d'élan à cette croissance qui est pour l'instant ténue et l'inflation l'est aussi là-bas, donc elle aurait toutes, je dirais, les marques pour le faire.
Voilà donc quelques idées qu'on va bien évidemment développer dans le regard croisé dans un instant. Et puis un coup d'œil sur un dossier qui fait pas mal jaser ce matin, c'est Vivendi.
Vivendi qui baisse fortement ce matin parce que après la confirmation de la cession des activités logistiques de Bolloré, ça avait renforcé l'idée que le groupe Bolloré puisse se renforcer au capital de Vivendi. Et Bolloré avait déclaré à l'occasion de la publication de ses résultats annuels disposer de deux options d'ici l'été qui correspond à la période de l'annulation des titres par Vivendi, qui était soit de céder des titres pour rester sous le seuil des 30% de Vivendi dans le cadre des annulations de titres, soit effectivement de lancer une offre publique. A priori, selon effectivement les déclarations de l'AMF hier, le groupe Bolloré a choisi la première formule. Et donc, on par le biais de la compagnie de Cornouailles qui est détenue à 100% par Bolloré, il a vendu un peu plus de 1,5 million de titres Vivendi, signifiant clairement que le groupe souhaite vraisemblablement rester sous le seuil des 30% à l'occasion de cette annulation de titres. Et donc, effectivement, pour respecter ce seuil, il va devoir procéder à d'autres cessions de titres. Cette opération signifie donc que Bolloré n'a pas l'intention pour l'instant de lancer d'offres publiques dans l'immédiat. Pour autant, il n'y a pas eu de déclaration d'intention contraire. Donc, il pourrait y avoir une offre ultérieure, mais en tout cas, peut-être pas de façon imminente et à l'été, comme peut-être certains l'envisageaient, rapidement. Donc, le titre est en souffrance ce matin, un peu moins qu'il ne l'était à l'ouverture, mais toujours pénalisé. Et donc, on a l'attrait potentiellement spéculatif qui s'efface momentanément autour de Vivendi. Donc, il faut revenir aux fondamentaux et retravailler sur sa somme des parties.
Merci beaucoup, Sarah. Thirion, Tipeee iCap qui nous accompagnait ce matin. Le marché en baisse d'1%, 7402 points et Vivendi qui perd 6,8% à 8,80 €.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Regard croisé qui accueille ce matin Luc Viennet. Bonjour Luc.
Bonjour
Cédric. Merci d'être avec nous pour Bred. Et Vincent Juvins. Bonjour Vincent.
Bonjour Cédric.
Pour JP Morgan AM. Que d'incertitudes autour du plafond de cette dette américaine. Bon, on sait que les discussions ont lieu, que les rencontres ont lieu, mais pour le moment, il y a de moins en moins d'argent dans la poche de Joe Biden pour terminer le mois. Ça vous inquiète ou ça vous inquiète pas, Vincent? Quels sont vos scénarios, finalement, chez JP Morgan?
On part du principe qu'historiquement, on a toujours trouvé un accord, que ce serait un peu surréaliste de ne pas en trouver un. Donc, statistiquement, évidemment, l'accord est le scénario le plus probable. Maintenant, je pense qu'on est tous, évidemment, alarmés par le fait qu'à force de jouer avec le feu, un jour, on risque de se brûler. Maintenant, bon, je pense qu'il y a encore quelques semaines devant nous. Avant, cette X-Date et la date butoir où, en effet, les États-Unis feraient défaut. Je pense que c'est en tout cas un des facteurs qui rajoute de la volatilité sur les marchés, qui rajoute un petit peu d'aversion pour le risque auprès des investisseurs, après une année qui a été évidemment excellente. Donc je pense que ça fait partie des facteurs qu'il faut surveiller, qui sont susceptibles d'alimenter cette volatilité, qui nous amènent, nous, un petit peu plus de prudence dans la manière dont on déploie notre allocation d'actifs aujourd'hui. On ne sait pas, même si statistiquement ça devrait bien se passer, mais ça vaut quand même la peine de s'en prémunir avec potentiellement un peu moins d'actions, un peu plus d'obligataires, un peu plus de cash. Et ce n'est pas le seul, d'ailleurs, finalement, événement qui, aujourd'hui, vient un peu troubler l'horizon pour les prochains mois.
Et on va développer tout ce qui trouble éventuellement l'horizon. Luc Viennet, voilà, cette dette, enfin, c'est pas anodin de toute façon d'entendre parler de défaut sur la dette américaine.
Tout à fait, c'est pas anodin. Alors, pour parler un peu comme les Américains, on est là dans un chicken game un peu quelque part. Vous voyez les voitures qui roulent vers la falaise et qui vont freiner le plus près possible du bord. Et Biden et McCarthy sont dans ce jeu-là aujourd'hui. Je pense que on est dans une situation de stress importante par rapport aux autres épisodes qu'on a vécu, notamment en 2011-2012. Donc c'est probablement le pire épisode de stress sur cette partie du plafond de la dette. Moi, je pense qu'il y a une probabilité non négligeable qu'on aille quand même vers une cessation de paiement. Alors attention, faut prendre ça avec des pincettes, de l'administration américaine, mais ça commencera par le salaire des fonctionnaires.
Comme on l'avait déjà vu, voilà, avec des fermetures, des parcs nationaux.
Et ils émettent dans ces cas-là des IOU, je vous dois. Donc en gros, ils disent vos salaires seront payés quelques mois plus tard. Ça va commencer comme ça et ça sera très très difficilement tenable politiquement pour les républicains. Donc on risque d'avoir ce scénario. Ça va pas durer des semaines après, ça va durer que quelques jours. Et il y aura une résolution. Je pense que les démocrates sont quand même dans une situation politique plus solide, puisque ils ont déjà leur candidat pour les élections dans 18 mois, ce qui n'est pas le cas des Républicains. Et je pense que des luttes internes chez les Républicains pourraient provoquer, faire changer d'avis certains Républicains qui se rangeraient auprès des démocrates. Et une fois qu'on aura atteint cette date butoir, quelques jours après, il y aurait un accord trouvé.
Ouais. Ça, c'est on rappelle hein, que d'ailleurs, les fois précédentes où on a un peu joué avec les parcs nationaux, etc., le crédit politique des principaux acteurs s'était fortement dégradé, ce qui avait amené là aussi effectivement à un accord au bout de quelques heures. Bon. Voilà donc pour tout ça. Enfin, on rappelle quand même que, ouais, un incident de crédit sur une dette américaine, c'est quelque chose qui potentiellement a un poids énorme. Enfin, les chiffres qui circulent, c'est 6 points de PIB.
Ouais, pourrait être disruptif pour l'économie, pour les marchés. Je pense qu'en effet, il y a des artifices comptables qui permettent encore d'éviter ce contexte. Il y a encore pas mal d'autres solutions qui sont encore sous la table, au-delà d'un accord, évidemment, entre républicains et démocrates. Je pense qu'en tout cas, au-delà de cet épisode, si on se projette déjà post-accord ou post, en tout cas, tour de passe, je pense qu'il faut se rendre compte qu'on va au-devant d'une période, vraisemblablement, d'austérité aux États-Unis. Or, peut-être pas l'austérité comme en Europe, hein, vu avec les critères de Maastricht, mais enfin, on va quand même solidement décélérer, en tout cas, la politique budgétaire des États-Unis. C'est à prendre en compte, en tout cas, dans les perspectives de croissance de l'économie américaine. À l'heure où on se demande récession par récession, il est certain que la politique fiscale sera un des éléments qui va moins soutenir l'économie des États-Unis au cours du second semestre.
Alors, on reste aux États-Unis avec cette deuxième préoccupation, puisque vous le rappeliez, il y a quand même pas mal de facteurs à observer en ce moment. C'est la suite de la crise de confiance bancaire et on voit la Fed qui nous dit attention à une éventuelle contraction plus large du crédit. Vous le craignez, vous aussi
Oui, parce qu'on sait évidemment qu'on va avoir ces informations avec un effet retard. On voit déjà que 40% des banques signalent durcir leurs conditions de crédit. On voit déjà que les petites entreprises américaines, lorsqu'elles sont interrogées chaque mois dans le cadre du sondage NFIB, signalent qu'aujourd'hui, c'est plus difficile d'obtenir des crédits. Ça fait même finalement une difficulté qui tend à surpasser même la difficulté d'engager au niveau des petites et moyennes entreprises. Donc, il est certain que les petites et moyennes entreprises américaines sont un peu dans l'œil du cyclone actuellement, en tout cas en tant qu'indice. C'est l'indice où on a le plus de banques régionale, c'est finalement ce type d'entreprise qui est plus dépendante du prêt bancaire pour son financement. Donc on a vraiment là un secteur qui est quand même en difficulté de notre point de vue. En termes d'arbitrage de marché à réaliser pour les investisseurs, il y a certainement de notre point de vue une large préférence pour les large caps au détriment des small caps compte tenu de ce qu'on peut observer. Attention, la situation s'observe d'ailleurs outre-Atlantique. En Europe aussi, on a vu dans le cas du Eurozone Bank Lending Survey que les banques en tout cas signalent elles aussi durcir leurs conditions de financement. Et moins de banques le signalent, on est plutôt sur du 20-25% pour l'instant, mais n'oublions pas que le prêt bancaire, le crédit bancaire est plus important dans le mix de financement des entreprises en Europe qu'il ne l'est aux États-Unis. Donc là aussi, le FMI s'est risqué à une modélisation de l'impact de ce resserrement des conditions de crédit sur l'économie, estimant que de part et d'autre de l'Atlantique, ça pourrait coûter jusqu'à un 0,5% enfin 0,5% de PIB au cours des 12 prochains mois.
Vous le craignez, vous aussi, cette question, ces scénarios de financement, de durcissement du crédit
Il faut voir une chose. Depuis 2022, on a eu des hausses de taux d'une violence extrême, en termes d'amplitude et en termes de rapidité aussi. Et on voit que ça impacte des agents économiques. On l'a vu avec les banques régionales américaines qui ont souffert de cette hausse de taux violente. Et c'est pas immédiat. C'est-à-dire qu'on le voit quelques mois après. Peut-être que ça prendra aussi quelques années pour d'autres agents économiques. Donc, il est possible que ce qu'on ait vu sur les banques régionales américaines, on le voit pour d'autres agents économiques dans les semaines, mois qui viennent. Sur la problématique spécifique des banques américaines, on est d'accord sur le fait que on est face à des banques d'une taille plutôt petite qui ont fait des erreurs de gestion à ALM et au-delà de ça la régulation n'était pas suffisamment forte sur ce segment de l'industrie bancaire. Donc il va y avoir des ajustements aux États-Unis, probablement un durcissement de la régulation pour les banques, en tout cas pour les banques qui ont moins de 250 milliards de taille de bilan. Mm-hmm. Et ça effectivement ça va avoir un impact sur l'économie en général, c'est indubitable.
Voilà donc pour les aspects, enfin les principaux aspects américains. On rappelle qu'il y a des PMI américains qui vont émailler l'après-midi et qu'on lira bien évidemment avec intérêt. Un mot aussi d'un autre facteur qui a beaucoup alimenté les marchés en début d'année. et qui tend peut-être à préoccuper aussi un petit peu les investisseurs, ce sont les questions chinoises. C'est vrai qu'on a pendant longtemps dit, ah, vous allez voir ce que vous allez voir, la Chine va redémarrer, elle va sortir de son Covid, et puis et on nous promettait monts et merveilles. On a l'impression qu'on en est un peu revenu. Quelle est votre lecture sur ce plan ?
Oui, ça s'essouffle beaucoup plus rapidement qu'on ne l'avait estimé. C'est vrai que les derniers chiffres, vente au détail, production industrielle, investissement en actifs immobilisés et j'en passe, étaient largement inférieurs aux attentes. La réouverture prend plus de temps. Finalement, les autorités sont relativement prudentes dans le déploiement de politiques de soutien. Mmh. On a vu que la PBOC aussi, la Banque Centrale Chinoise, n'a pas finalement délivré de baisse de taux supplémentaire. Elle l'a fait à minima plutôt cette année. Il y a des soutiens budgétaires ciblés, notamment pour tout ce qui touche à la transition énergétique et autres. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on sent que les autorités ont pris, en tout cas tiré des enseignements de 2008 et d'un plan de relance qui était à l'époque indiscriminé et qui avait entraîné pas mal de déconvenues pour l'économie, et notamment la formation de cette bulle immobilière. Aujourd'hui, il y a plus de restreintes dans le chef des autorités chinoises. Et on sent que cette réouverture, elle prend en tout cas, sur l'aspect manufacturier, beaucoup plus de temps que ce qu'on ne pouvait l'escompter. Il faut signaler que si la consommation repart, si l'utilisation des services repart comme nous l'avions vécu un temps en Occident, la Chine évidemment souffre du fait que les économies occidentales ralentissent et surtout que les économies occidentales cherchent aujourd'hui à se désensibiliser de la Chine. Donc ces différents facteurs viennent peser évidemment sur la capacité de la Chine à s'exporter hors de la crise et c'est là notamment sur le commerce extérieur, notamment un des éléments qui vient peser sur la tendance économique en Chine.
Comment lisez-vous cette, je ne sais pas si on peut dire déception, mais ce manque de confirmation du côté chinois ?
Bah, je pense que c'est pas que, mais c'est beaucoup un problème domestique en fait aujourd'hui. Et moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de choses qui sont cachées sous le tapis en Chine, notamment, vous en parliez, tout ce qui est immobilier. Hein, on a quand même un vrai problème avec ça. Et quelque part, la croissance qui viendrait par la consommation domestique, elle dépend beaucoup aussi du moral des ménages. Donc peut-être qu'il y a un problème de confiance du côté des Chinois et de leur consommation qui serait impactée de ce fait.
Voilà donc pour ce cas chinois, puis on fait un tour du monde, donc terminons par l'Europe. Quel regard vous portez sur cette Europe ? Après, on essaiera de voir justement ce qu'on tire comme conclusion de tout ça en termes d'allocation.
Mais je dirais que comme un peu partout, on voit les mêmes phénomènes en Europe, c'est-à-dire une forte divergence entre le secteur manufacturier et le secteur des services, entre finalement la vigueur de l'emploi et en tout cas la situation dans le secteur industriel. Je pense que ça, on l'observe aux États-Unis, on l'observe en Chine, on l'observe en Europe. Néanmoins, l'Europe surprend quand même largement depuis le début de l'année par sa résilience. Et puis, il faut quand même le signaler, si la résilience du marché de l'emploi s'est souvent mis en exergue aux États-Unis, c'est plus rare en Europe. On a quand même eu une progression de l'emploi encore ces derniers mois. On a une Europe qui n'est pas, en tout cas, dans une perspective d'austérité pour l'instant. On a une Europe qui continue à investir dans sa transition énergétique, dans son soutien aux différents pays grâce à des plans qui avaient été votés l'an dernier et l'an d'avant, notamment des fonds comme le Next Generation EU, REPowerEU, et une Europe qui avance vite dans sa transition énergétique. Donc ça, ce sont des éléments, évidemment, qui sont relativement porteurs pour la région. Une Europe, en tout cas, de par ses marchés financiers, qui a vraiment bien entamé le virage 2023 grâce finalement à des secteurs de croissance plutôt que des secteurs défensifs ou des secteurs value. On l'a vu en France avec le CAC, on l'a vu aux Pays-Bas avec des entreprises actives dans les semi-conducteurs, on l'a vu également sur la tech ou les logiciels en Allemagne. Donc il y a une Europe qui, il y a un peu une nouvelle Europe qui se dessine, l'Europe de la transition énergétique, l'Europe finalement qui réinvestit dans sa capacité de gérer elle-même sa production technologique, que ce soit de semi-conducteurs, que ce soit de technologies climatiques, ou en tout cas de biens de luxe, en tout cas en France, ça c'est certain. Mais ça, ce sont aujourd'hui les moteurs de la croissance. Et puis le fait que l'Europe est dans une situation aujourd'hui assez rare que pour la souligner de plein d'emploi est quelque chose qui soutient largement la consommation et les services. Je pense qu'on l'a encore vu le week-end dernier en France. Les Français avaient pris des non-week-ends. Ça s'est mesuré aux embouteillages dimanche soir. C'est un phénomène qu'on observe partout en Europe. On note d'ailleurs que des secteurs cycliques, compagnies aériennes, hôtellerie et autres, sont à la fois très positifs pour 2023, mais au-delà. Donc on est dans un phénomène finalement un peu une super tendance et ça c'est positif. Ma seule grosse inquiétude et seule bémol pour l'Europe est la situation budgétaire qui est quand même pas brillante dans des pays comme la France, comme la Belgique, comme l'Italie, comme l'Espagne, qu'il faut absolument restaurer notre potentiel de croissance et réduire des déficits et que les taux d'intérêt vont vraisemblablement en tout cas rester à ce niveau-là ou continuer à augmenter. Donc la charge de la dette va augmenter et là il faut absolument pour moi resserrer la vis au niveau déficit budgétaire au risque de en tout cas avoir à nouveau une attention plus grande des marchés pour ce sujet dans les prochains mois.
Quel est votre sentiment sur notre zone ?
Alors, je pense que les marchés parlent d'eux-mêmes. On regarde les marchés boursiers en Europe par rapport aux États-Unis depuis quelques mois. Il y a une surperformance notable. Donc, effectivement, l'Europe fait mieux que ce qui était anticipé il y a quelques mois. Moi, mon sentiment, quand même, c'est que on a eu un certain nombre de focus récemment. Les banques régionales américaines. Maintenant, c'est le plafond de la dette aux États-Unis. Je pense que, in fine, le marché va revenir sur des problématiques d'inflation. On n'est pas sorti de l'auberge sur ces problèmes d'inflation. Loin de là. Et je pense que la menace principale qui pèse, et là, c'est valable pour l'Europe et pour les États-Unis également, ce sont les banques centrales qui pourraient être plus agressives que ce qu'anticipe le marché. Alors, pas forcément en termes de taux directeurs, même si aujourd'hui, on se rend compte qu'aux États-Unis, les marchés anticipent une baisse de quasiment 75 BP d'ici à la fin de l'année de la part de la Fed. J'y crois pas du tout, je pense que ça va rester stable. Je vois pas les banques centrales monter plus leurs taux. En revanche, il est probable que, voyant que l'inflation ne revient pas dans son lit, elles accélèrent sur des problématiques de quantitative tightening, donc le resserrement quantitatif. Aujourd'hui, tous les actifs qu'elles ont achetés au cours des dernières années, elles les laissent quelque part mourir de leur belle mort. Il est possible qu'à un moment, elles se mettent à vendre certains actifs. Et là, ça provoquerait une hausse importante des taux longs, qui serait aussi alimenté par les problématiques de dette dont Vincent a parlé, avec plus de dette publique, donc mécaniquement des taux longs plus élevés. Et on aurait finalement des corrections en termes de valorisation sur les actions, sur l'immobilier, qui viendraient par la hausse des taux longs. Donc moi, je vois ça arriver après l'été, d'ici à la fin de l'année 2023.
Allez, on termine notre causerie, comme on dit, par un petit détour sur notre patrimoine, sur nos actions, sur notre portefeuille. Est-ce qu'il est donc temps d'ajuster finalement son portefeuille, Vincent? Vous nous avez dévoilé quelques-unes de vos lignes en début de propos, mais voilà, est-ce que c'est le moment de se dire, tiens, on voit que le marché, en tout cas pour Paris, hésite pas loin de ses plus hauts historiques. Est-ce que, voilà, c'est le moment de regarder différemment les choses?
Moi, je le pense. Alors, en toute humilité, vous le savez, je l'ai exprimé plusieurs fois sur ce plateau. On a commencé l'année chez JP Morgan Asset Management avec une position neutre, légèrement sous-pondérée en actions. Alors, c'est pas maintenant qu'on va évidemment en rajouter pour l'instant. Je pense qu'au mois de mai, il est de bon temps, évidemment, d'évoquer ce phénomène de sell in May, go away. Je pense que vendre ses actions, c'est sans doute pas le moment. Mais en tout cas, vendre ses bénéfices, revenir à neutre sur l'Europe, me semble aujourd'hui à minima, en tout cas, la chose à réaliser. Je pense qu'il faut aujourd'hui reporter en tout cas son patrimoine sur les classes d'actifs qui sont probablement restées plus en retrait. J'aurais plus, en tout cas, d'intérêt pour les émergents, pour des thématiques qui nous permettent de désensibiliser finalement le portefeuille action à la direction des marchés. Je dirais des éléments plus macro, plus long short au niveau de la poche action. Donc, l'idée est de se dire qu'on va avoir une direction des marchés qui sera probablement moins favorable au cours des prochains mois, en raison des différents, en tout cas, défis qu'on a pu évoquer, Luc et moi, sur ce plateau aujourd'hui. Plafond de la dette, austérité à venir aux États-Unis, inflation persistante, taux en hausse et que sais-je. On a surtout parlé de défis pour les prochains mois. A contrario, je pense qu'il y a évidemment aussi sur l'obligataire toujours là des bonnes choses à faire. Alors pas sur les small caps notamment, mais l'investment grade au niveau des large caps est certainement une classe d'actifs qui dans le contexte actuel, ni Luc ni moi n'avons anticipé de hausse de taux, en tout cas des banques centrales. En tout cas, c'est une classe d'actifs qui pourrait en tout cas bien fonctionner dans ce contexte-là. Donc prudence pour les prochains mois, revenir à une position plus neutre si on était surexposé au marché d'actions. On va avoir des prochains mois qui, d'un point de vue économique et d'un point de vue marché, seront sans doute un petit peu moins importants qui ne l'ont été jusqu'ici.
Alors, chez Brad, comment on voit les choses? Est-ce qu'on ajuste le portefeuille? Est-ce qu'on change de typologie, de géographie, de...
Alors moi, j'ai un axe moins action, mais ce que je pense sur les marchés actions et sur les actifs risqués en général, c'est que on regarde ces marchés-là en valeur brute. Donc optiquement, on a l'impression que ça a pas mal monté. En réalité, si on corrige ça de l'inflation et qu'on regarde ça en termes réels, les marchés n'ont pas tant monté que ça. Et même depuis deux ans, en réalité, quand on regarde les marchés américains, ils ont plutôt baissé corrigés de l'inflation. Et en Europe, légèrement monté. Donc je pense qu'on a malgré tout des valorisations relativement excessives du fait de ces injections de liquidités qui ont été effectuées par les banques centrales au cours des dernières années, qui conduisent à je dirais pas la production de bulles, mais en tout cas de valorisation excessive. Donc on risque d'avoir un retour sur le marché en général dans les mois qui viennent. En revanche, j'ai d'autres convictions, notamment moi j'aime bien les bancaires européennes.
D'accord.
Je pense que là, on a moins de problèmes avec les institutions bancaires en Europe. Donc ça, ça a pas mal corrigé ces derniers mois. Et je pense qu'on peut avoir quelque chose à jouer là-dessus. J'aime bien tout ce qui est énergie aussi. Je pense que on a eu globalement un hiver très doux dans l'hémisphère nord. Et je pense que le pétrole tient trop compte de cela et qu'on n'est pas sorti des problématiques énergétiques. On risque de voir ressurgir en septembre les mêmes problématiques qu'on a eues l'année dernière, peut-être en moins fort, mais un pétrole en dessous de 70 pour le WTI, c'est pas, pour moi, pas logique. Ça devrait remonter à 100 dollars. Donc peut-être, dans ce cas-là, il faut acheter les valeurs qui sont sensibles à l'énergie. Et puis, comme je l'ai dit, hein, hausse des taux longs. On a des OAT aujourd'hui, 10 ans à 3%. Je pense qu'on va monter à minima jusqu'à 4%. Et que ça aura des impacts sur toutes les valorisations de tous les actifs, à la fois actions, à la fois immobiliers, d'ici dans les mois qui viennent.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir échangé autour de ces grands thèmes qui font bouger les marchés. Donc Luc Viennet, directeur des marchés de capitaux pour la BRED, merci d'être passé nous voir. Et Vincent Juvins pour JP Morgan Asset Management. À très bientôt.
Merci.
Merci Vincent.
Dans un instant, un petit détour sur les marchés. Ce sera technique avec Gilles Santacreux. Et puis ensuite, on continue à vous donner un maximum de conseils et on vous dévoile la une des Échos Patrimoine. À tout de suite.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Et pour entamer cette dernière demi-heure de l'émission, comme chaque jour, rendez-vous avec un trader. Et c'est Gilles Santacreux qui suit cette séance pour nous depuis boursicoté.com. Merci Gilles d'être devant vos écrans pour lire cet indice CAC 40. Indice CAC 40 qui pourrait bien menacer les 7004. On y est passé dessous juste il y a un instant. Avant de revenir finalement, 7403 points.
Oui, tout à fait. Je vous indiquais tout à l'heure qu'en cas de cassure des 7430 points, eh bien, on pouvait viser un retour sur la zone des 7380. Alors là, on fait une petite pause hein, sur 7400 points. On tente un tout petit, tout timide rebond technique. L'objectif, c'est clairement la zone des 7380. Donc, on est plombé par le luxe. Hein. Lorsque l'on regarde les palmarès des plus fortes baisses au niveau du CAC 40, on a LVMH et Hermès qui sont en position 2 et 3, juste derrière Vivendi. Quand on voit la pondération de ces titres, eh bien, on comprend tout à fait pourquoi le CAC 40 est tiré par le bas et beaucoup plus rapidement que d'autres indices. Au niveau de mes algorithmes, on avait pourtant des probabilités de rebond, mais de rebond fragile, hein, qui pouvait être suivi par un retour de la baisse prochainement. Donc quelque part, c'est, je dirais que on revient sur une fragilité qui avait déjà été sentie. On est entre les craintes. Donc on a vu les PMI ce matin qui traduisent un potentiel ralentissement de l'économie, une hausse des taux. Bon, bah, c'est le luxe hein, qui en pâtit. On est toujours donc dans ces craintes de discussions qui ne puissent pas aboutir autour du mur de la dette. Pour l'instant, les marchés semblent confiants, mais il faudra voir jusqu'où on peut aller, et notamment par rapport aux échéances. Eh bien, à la fin de la semaine, on devrait déjà avoir une idée de ce qui pourrait se faire ou pas. Un autre fait marquant, c'est un petit peu toutes les valeurs liées au dollar. On a un dollar index hein, qui remonte, on a dépassé les 103. On a eu un triple contact sur la zone des 100.50 qui a inversé la tendance hein, qui était baissière jusqu'à présent sur le dollar. Là, on repart à la hausse. Il faudrait faire attention à ne pas remonter trop. On a une zone à 105.50 qui pourrait être majeure et tout cela se traduit par une baisse de l'euro dollar qui revient sur une zone clé à 1.0780. On a aussi le gold qui teste une zone majeure à 1957 dollars l'once. Une cassure de cette zone viendrait de donner des signaux assez négatifs. Et le seul actif, je dirais, côté en dollars qui résiste, c'est le pétrole, puisque le WTI s'installe dans un range entre 70,50 et 74 dollars le baril. Donc, c'est un petit peu la macroéconomie hein, qui nous donnera la direction. Mais pour l'instant, en tout cas, ce qu'il faut surveiller, c'est effectivement sur le CAC 40, donc eh bien, un retour possible sur la zone des 7380 points.
Merci beaucoup Gilles. Gilles Santacreux et boursicoté.com qui nous accompagnait ce matin. Le marché parisien donc effectivement perd 1% à 7403 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Qu'il soit question de souscrire un contrat de mariage ou de protection du conjoint ou de divorce, l'aide d'un notaire s'avère le plus souvent particulièrement utile. Alors dans quel cas concrètement peut-on solliciter cette aide et comment le notaire peut-il vous accompagner? L'éclairage distillé il y a quelques temps de Barbara Thomas David, notaire à Paris.
Mais écoutez, on a besoin du conseil de son notaire pour une bonne gestion de patrimoine, pour une anticipation, pour un mariage heureux, pour justement une vie heureuse au quotidien. Il faut anticiper les choses.
Parce qu'il y a des conséquences patrimoniales, entre guillemets, des différents modes, par exemple, de conjugalité.
Bah, vous savez, en France, il y a trois grands modes de conjugalité, le mariage, le pacs et puis le concubinage. Et plus le mode de conjugalité est encadré, plus la protection légalement, c'est-à-dire qu'en termes, lorsque vous êtes marié, vous bénéficiez d'une véritable protection de votre conjoint, de l'être qui est cher tout au long de la vie. Lorsque vous êtes pacsé, ben, moins de contraintes et moins de protection. Et puis lorsque vous êtes de simples concubins, on a coutume de dire les concubins ignorent la loi, donc la loi les ignore. Eh oui. Il n'y a pas de protection particulière.
Alors on va essayer de se poser un certain nombre de questions et puis vous nous direz, vous nous guiderez dans ces différents modes. D'abord, pour acheter un logement à deux, est-ce qu'il vaut mieux se marier?
Alors, encore une fois, si on est dans une optique de protection de l'être cher, oui, puisque le mariage, c'est une modalité de protection de son conjoint. Donc, par exemple, je vous cite deux exemples. Lorsque vous êtes marié, si vous voulez vendre la résidence du couple, il faut l'accord de l'autre. Même s'il n'est pas propriétaire, la vente du logement de la famille nécessite l'accord de son conjoint. De même, en cas de décès, vous bénéficiez d'un droit viager au logement, sauf si vous le retirez par testament authentique, mais vous avez automatiquement la possibilité de conserver votre cadre de vie.
Alors, à défaut de mariage, quelle solution juridique un couple peut-il envisager pour sécuriser du coup son acquisition?
Bien sûr. Donc, en fait, si vous voulez, lorsque vous n'êtes pas marié, vous êtes soumis, lorsque vous achetez un bien immobilier, au régime de l'indivision, comme tout un chacun.
D'accord.
Et vous achetez dans les proportions qui correspondent à votre financement, hein, tout classiquement.
Donc, chacun a la part qu'il acquiert.
Tout à fait. Et l'idée, c'est que les règles de l'indivision, c'est quasiment l'unanimité pour tout. Donc, vous voyez, c'est un carcan juridique qui laisse peu de place à la liberté, et notamment lorsqu'il y a un décès prématuré, vous vous retrouvez avec vos enfants ou les enfants de votre conjoint lorsqu'il y a des familles recomposées.
Eh oui.
Donc, il y a un mécanisme assez simple, c'est de recourir à une SCI. La SCI, elle permet la différenciation de l'avoir et du pouvoir. C'est-à-dire que vous allez, par le mécanisme de vos statuts, gérer votre gouvernance en fonction de votre philosophie de vie et de vos souhaits. Vous allez pouvoir verrouiller votre société de sorte que si jamais y a votre conjoint est dans l'incapacité temporaire ou permanente d'accomplir des actes de gestion, mais également des actes de disposition, vous allez pouvoir prendre le pas et en votre qualité de gérant, continuer à gérer le bien. C'est la même chose en cas de décès. Grâce à une SCI, vous avez, si vous voulez, une possibilité clairement de plus de liberté et de souplesse.
Voilà donc un premier conseil. Un conjoint peut-il hériter en cas de pacs?
Ça, c'est une question qui revient souvent. Vous savez que maintenant, ça commence à dater. Depuis 2007, le législateur fiscal a considéré que les conjoints mariés ou pacsés n'avaient pas à payer de droits de succession. Alors pour les conjoints mariés, c'était bien parce qu'on est passé de 20% à zéro. Mais pour les pacsés, on est passé de 60% à zéro. Et donc il y a eu un cheminement un peu rapide dans l'esprit de certains Français qui se sont dit « Super, je ne paye plus de droits, donc j'hérite ». Or, quand vous êtes marié, vous héritez automatiquement de votre conjoint. Quand vous êtes pacsé, vous n'héritez absolument pas de votre conjoint. Il faut passer par la case...
On paye zéro sur rien.
Ben voilà.
Pas mal.
Donc, l'idée, c'est de passer par la case testament. Donc, absolument faire un testament. Et là, vous paierez zéro, comme vous dites, de droit.
Mais zéro sur quelque chose.
Mais zéro sur quelque chose, c'est mieux.
C'est pas mal, c'est toujours mieux, effectivement. À quel moment, parce qu'on est quand même là aussi pour donner des conseils, donc on voit qu'être accompagné, pour être guidé au bon endroit, c'est tout de même important. À quel moment il faut prendre rendez-vous chez son notaire, chez son conseil, chez...
Je dirais que c'est à tous les moments clés de la vie. c'est-à-dire que vous vous mariez ou vous vous paxez, est-ce qu'il faut faire un contrat de mariage ou pas ? Il faut effectivement aller voir son notaire pour voir si, oui ou non, c'est opportun. Il va vous conseiller en fonction de votre patrimoine.
Et contrairement à ce que pensent certains, ça n'est pas parce qu'on n'aime pas son conjoint qu'on veut un contrat. C'est pour de vraies raisons.
Bah, vous savez,
parce que souvent, il y en a qui disent « Pourquoi tu veux faire un contrat ? C'est que tu souvent, penses déjà à me quitter ou... ?»
On dit souvent que le testament ne fait mourir personne. Ouais, et bien, le contrat de mariage ne fait divorcer personne. Ouais,
bon, donc, chaque fois qu'on a un moment patrimonial de sa vie, etc., c'est pas mal
le mariage, l'acquisition, on saute le pas, on crée son entreprise, on fait une donation, on reçoit une donation. Voilà, tous ces moments un peu clés, c'est bien de réfléchir un peu.
Bon, il y a quand même parfois le divorce. C'est aussi un moment de la vie. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de divorce heureux ?
Alors, on peut parler de divorce apaisé. C'est-à-dire que, moi je dis toujours qu'une bonne gestion de patrimoine, c'est une gestion de patrimoine qui se commence tôt. Et donc c'est ce qu'il faut faire en termes de mariage. Et puis, la paix des familles, c'est également la paix du couple. Et la paix du couple, eh ben, elle s'anticipe. Donc, plus tôt vous aurez envisagé la façon dont votre patrimoine va être géré pour protéger votre conjoint en cas de décès, mais pour trouver, on va dire, des accords pacifiés en cas de divorce, plus tôt vous y aurez pensé, mieux ça sera. Et puis si vous n'avez pensé à rien, on a souvent coutume de dire que le notaire, c'est un peu un magistrat de l'amiable, on est des spécialistes du partage, de la liquidation et du partage du patrimoine. Et force est de constater que souvent, là où il y a un problème de couple au moment du divorce, qui est évidemment un problème personnel, ce qui va crisper encore plus les choses, c'est les problèmes de partage du patrimoine, les problèmes patrimoniaux. Et si, effectivement, on peut mettre les gens autour d'une table pour dire, bon, ben voilà, vous êtes d'accord sur ça, vous n'êtes pas d'accord, mais on va trouver un accord pour que tout le monde garde la tête haute, pour que tout le monde puisse sortir du mariage.
Et là, il faut un peu le regard, je veux dire, froid et chirurgical du notaire aussi,
oui,
qui est capable de guider. Enfin, froid était peut-être pas bon, mais ça, c'est important.
C'est-à-dire qu'en fait, oui, il y a deux choses. Il y a le regard chirurgical pour le partage, mais également le regard humain. Il faut avoir un peu d'affection humaniste aussi, le regard humain, de trouver un accord. On essaye toujours de concilier les parties. C'est notre cœur de métier, la conciliation pour un mariage heureux.
Barbara Thomas-David, donc notaire à Paris, qui nous accompagnait très récemment sur toutes ces questions de contrat de mariage, de protection du conjoint, enfin de l'aide que peut vous apporter un notaire. Et puis, notez d'ores et déjà sur vos tablettes la journée de demain sur BFM Business tout au long de la matinée. On va vous accompagner pour bien remplir votre déclaration de revenus. Ce sera le cas dans BFM Patrimoine, bien sûr, dès 10h et dans 90 minutes business dès 13h, donc n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions à formuler. Tous nos experts seront nombreux sur le plateau pour vous répondre.
BFM Business avec Les Échos, nos réponses pour bien gérer votre patrimoine.
Vous n'avez pas pu manquer toutes les questions qui se posent à propos du crédit immobilier dans cette période de remontée de taux. Du coup, les Échos Patrimoine, en partenariat avec BFM Business, décortiquent la nouvelle donne sur le crédit immobilier. Une que l'on vous propose de découvrir donc en avant-première, puisqu'elle sera disponible vendredi en kiosque avec Marie-Christine Sonquin. Bonjour Marie-Christine.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous donc pour les Échos Patrimoine. Donc les taux de crédit immobilier ont considérablement grimpé. Est-ce que ça va continuer ? Est-ce que ça va s'aggraver ?
Eh bien, hélas, ça devrait s'aggraver parce que tous les indicateurs sont dans le rouge. Et pourtant, il y a encore très peu de temps, début janvier 2022, on arrivait encore à emprunter sur 20 ans à un taux de 1%. Ça paraît dément aujourd'hui. Ouais. Là, chaque mois, on se prend 0,10, 0,20 points de base dans la vue. Il y a une hausse absolument incroyable des taux de crédit immobilier. Selon les derniers chiffres de l'Observatoire Crédit Logement, en avril, les taux, alors hors frais, hors assurance, toute durée confondue, c'était 3,15. En mars, c'était 3,04. Donc, vous voyez déjà le bond en quelques semaines. Et ça continue, ça continue. Alors, pour les ménages, c'est absolument catastrophique, hein, parce qu'en 18 mois, ils ont perdu un pouvoir d'achat vraiment considérable. Ils ont perdu environ 20% de pouvoir d'achat. Et ça continue en mois de juillet, ils ont perdu 25% de pouvoir d'achat. Enfin, vraiment, les indicateurs sont dans le rouge. On prête déjà à 4% sur des durées de 20-25 ans. Et ça devrait être, grosso modo, le taux moyen vers juillet-août sur 20 ans. Vous devriez, en moyenne, emprunter à 4%. Donc, vraiment, les indicateurs ne sont pas bons. Toutes les raisons sont réunies pour que ça continue à grimper. C'est en tout cas ce que disent les courtiers, les spécialistes du crédit immobilier.
On rappelle brièvement le pourquoi du comment de cette hausse.
Pourquoi, finalement, c'est assez simple. Hein. Avant, l'argent était gratuit. Le taux de refinancement de la BCE, il est monté à 3,75%. Il y a un an, il était à 0%. Donc, la fête est finie.
On rappelle,
tout simplement.
C'est le
taux auquel les banques se refinancent auprès de la Banque Centrale Européenne. Donc, à partir du moment où vous devez payer vos ressources, alors que par le passé, elles étaient gratuites, évidemment, la donne, elle est totalement différente. Alors, ce ne sont pas les seules ressources des établissements financiers. Mais là encore, tous les indicateurs sont dans le rouge. Parce que par le passé, les épargnants, vous et moi, on avait beaucoup d'argent sur nos comptes courants. C'était la période Covid, on ne pouvait pas sortir de chez soi, on ne pouvait rien acheter. On laissait de l'argent sur son compte courant et puis il n'y avait pas tellement de concurrence parce que le livret A, il rapportait 0,5%. Aujourd'hui, le livret A, il rapporte du 3%. Donc, au lieu de laisser dormir votre argent sur votre compte courant, qu'est-ce que vous faites? D'autant plus que, comme quand vous avez une inflation à 6%, si vous laissez l'argent dormir sur votre compte courant, vous appauvrissez, là, vous allez placer votre
limiter
argent.
Les dégâts, parce que le livret A ne couvre pas l'inflation.
Au moins, vous limitez les dégâts. Donc, vous placez votre argent d'abord sur ces livrets réglementés. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque l'argent est placé sur un livret réglementé, même si c'est votre banque qui vous propose le livret A, vous avez 65% du montant qui est affecté à la Caisse des dépôts et qui servira après à financer notamment le logement social. Mais en attendant, ça fait une ressource en moins pour la banque.
Et oui.
Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire, la banque? Elle a des produits aussi concurrents pour essayer de retenir de l'épargne qui va lui servir de source de refinancement. Elle va vous proposer des livrets bancaires, elle va vous proposer des comptes à terme. Alors, les comptes à terme, on n'en avait plus jamais entendu parler, puis brusquement, maintenant, ça revient sur le devant de la scène. Mais elle propose ces placements à des taux qui sont quand même assez élevés. Pourquoi? Il faut bien qu'elle concurrence les livrets réglementés.
Évidemment.
Et il faut pas oublier que vous, épargnants, vous allez payer un impôt sur ces placements proposés par la banque. Vous allez payer la flat tax de 30%. Donc, ça fait des ressources qui sont également coûteuses pour les banques. Donc, il y a aucune raison pour que les taux baissent. Quand vous prenez un autre indicateur, le rendement de l'OAT 10 ans, ça flirte autour des 3% maintenant. Donc, il y a aucune raison pour que les taux des crédits immobiliers brusquement se remettent à baisser de façon sensible.
Donc ça monte et ça va continuer à monter, et vous nous en avez rappelé les raisons. Et en plus, on entend que c'est de plus en plus compliqué d'obtenir son crédit. Il n'y a pas qu'une question de taux et donc du coût qu'aura le crédit, mais c'est aussi difficile de décrocher un crédit. Qu'est-ce qui bloque?
C'est vrai que non seulement c'est cher, mais en plus vous avez des barrières de sécurité. Alors, quand je dis barrières de sécurité, c'est vrai que ça contrarie un certain nombre de personnes, notamment les professionnels de l'immobilier et les professionnels du crédit, mais il ne faut pas oublier que ces barrières de sécurité, elles sont là pour éviter d'abord un surendettement excessif des particuliers et puis pour éviter des grosses crises systémiques comme on a pu voir il y a quelques années. Je pense que tout le monde a encore en mémoire la crise des subprimes et le séisme international que ça a provoqué. Donc,
c'est pour assainir le marché.
Voilà.
Elles ont une bonne raison d'être.
Pour que le marché reste sain. Alors, on est très très loin de ces situations, mais donc vous avez ces barrières de sécurité. Alors, la première barrière de sécurité, eh bien, vous avez un taux d'usure. Le taux d'usure, qu'est-ce que c'est? C'est le taux maximal auquel vous pouvez emprunter. Les banques n'ont pas le droit de vous prêter au-delà de ce taux d'usure. Alors, il est très critiqué. Pourquoi? Parce qu'il est construit en regardant dans le rétroviseur, en fait. Donc, ce taux d'usure, vous observez, en fait, les taux qui ont été servis les 3 mois précédents et c'est à partir de là qu'est calculé ce taux d'usure. Alors justement, pour déverrouiller un peu le système, parce que c'est vraiment très pénalisant cette tactique de rétroviseur quand les taux montent brusquement et fortement, il y a une modification depuis février de calcul de ce taux d'usure. On ne regarde plus les 3 mois précédents, on regarde juste le mois précédent, ce qui fait que le taux d'usure s'adapte quand même beaucoup plus rapidement, voilà, à l'évolution de marché. Mais il s'agit d'une mesure transitoire et elle doit prendre fin normalement en juillet. Oui. Donc à voir si ça va être reconduit ou pas. Mais bon, vous avez cette première barrière du taux d'usure qui empêche les banques de prêter finalement à des dossiers qui seraient trop à risque et qui pourraient être acceptés nécessiteraient un taux plus élevé que celui qui est pratiqué. Voilà,
donc il se fait rattraper par le coup près du taux d'usure.
Exactement. Alors vous avez donc cette première barrière qui est le taux d'usure. Et puis vous avez d'autres barrières qui sont posées par le Haut Conseil de stabilité financière, donc toujours dans cette optique d'avoir des règles prudentielles qui évitent une dérive du système. Déjà, il ne faut pas que votre taux d'endettement soit supérieur à 35% d'une part, et puis vous ne pouvez pas non plus emprunter, sauf exception, sur une durée supérieure à 25 ans. Mmh. Alors ça aussi, ça bloque pas mal de dossiers, parce que vous avez certes les primo-emprunteurs qui sont les primo-accédants qui sont très pénalisés par ces règles parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais vous avez aussi des investisseurs qui, par exemple, ne peuvent pas investir parce qu'ils sont déjà endettés sur leur résidence principale. Alors, ils auraient les moyens, finalement, d'acheter parce qu'ils ont un reste à vivre assez conséquent. Mais comme ils sont déjà endettés par ailleurs, voilà, donc ils atteignent assez facilement ce taux de 35%. Alors, il y a différents lobbies qui essaient de desserrer un peu ce verrou-là, mais il apparaîtrait qu'on se dirige peut-être vers des mini-aménagements, des petits aménagements, mais pas par une remise en cause fondamentale de ces règles prudentielles.
Bon, on est donc quand même très encadré. Est-ce qu'il y a des petits tips sur lesquels on peut jouer pour faire un peu baisser le coût d'un crédit, enfin pour essayer de contourner ou d'aménager, ou enfin voilà, de trouver sa place au soleil?
Alors, il y a des petites astuces hein, quand même pour faire baisser le taux du crédit, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Il est beaucoup plus difficile que par le passé de faire jouer la concurrence. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand même? Eh bien, on peut déjà se présenter sous son meilleur profil, c'est-à-dire qu'on fait du nettoyage de son compte en banque, de ses petits crédits, des petits crédits à la consommation, des crédits revolving, tout ça.
De son abonnement Française des Jeux.
Voilà, on rembourse par anticipation, on s'arrange pour avoir un
Donc pour avoir 3 mois de compte en banque, voilà, de parfait épargnant.
Voilà, l'épargnant modèle. Bon, après, on peut faire miroiter à la banque, parce que le but de la banque qui va vous accorder un crédit, en général, c'est quand même de conquérir de nouveaux clients. Et de nouveaux clients à haut potentiel. On peut faire miroiter à la banque le fait de rapatrier tous ses comptes dans l'établissement. On peut lui dire aussi qu'on souscrira volontiers de nouveaux produits d'épargne, parce que c'est ça qui va intéresser la banque, c'est de conquérir un futur client rentable. C'est pas forcément sur le crédit immobilier qu'elle va gagner sa vie.
Le crédit immobilier reste un produit d'appel.
Voilà, ça reste un produit d'appel. Après, vous avez d'autres petites mini-astuces pour faire baisser le coût du crédit. Par exemple, si vous achetez une résidence secondaire, eh bien, faut regarder si il n'y a pas des établissements bancaires dans la région où vous achetez cette résidence secondaire qui prêteraient à des taux plus intéressants que l'établissement dans lequel vous êtes pour votre résidence principale.
Ah oui.
Vous avez des banques régionales. Quand vous regardez finalement tous les taux qui sont pratiqués dans toute la France, bah, y a des différences en fonction des régions. Chaque banque, chaque établissement, chaque banque régionale peut avoir sa politique de conquête de clients. Donc, à la marge, vous pouvez arriver à grappiller quelques dixièmes plus intéressants. Qu'est-ce que vous avez ensuite pour faire baisser le coût du crédit? Vous pouvez négocier le coût du dossier. Hein, les frais de dossier, ça c'est quelque chose.
Les frais annexes, quoi.
Voilà, les frais annexes, les frais de
dossier. Qui rentrent hein, dans le taux d'usure.
Ça rentre dans le taux effectif global. Donc, effectivement, c'est très important de négocier ces frais de dossier. Puis, alors, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, alors ça ne rentre pas dans le taux global, mais c'est quand même assez important. Il faut négocier l'indemnité en cas de remboursement anticipé. Pourquoi? Parce que là, il ne faut pas vous faire d'illusions, de toute façon, emprunter quand même à un taux relativement élevé. Ouais. Mais la roue tourne. Et dans quelques années...
Peut-être ça rebaissera et on pourra renégocier ce qui était le sport il y a une dizaine d'années.
Voilà, c'était le sport national. Ça peut le redevenir. Donc si vous empruntez aujourd'hui à 4%, peut-être que dans 2 ans, bah, vous pourrez racheter votre crédit et puis emprunter un taux plus intéressant. Donc il faut négocier cette indemnité sur ce que vous devez payer, voilà, de remboursement anticipé. Donc ça peut être aussi intéressant. Vous avez d'autres astuces qui sont enfin même plus qu'une astuce, des choses qui sont aussi mais vraiment la fondamentale pour le taux du crédit immobilier. Et là, ça rentre vraiment dans le TEG. C'est bien sûr le taux de l'assurance.
Ouais, c'est ça, l'assurance emprunteur. On le rappelle, hein, qui a vécu une vie mouvementée ces derniers temps, voilà, et voilà. On est arrivé à pouvoir renégocier à tout moment, sans aucune condition, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger.
Hein. Absolument. Alors, le taux de l'assurance emprunteur, c'est vraiment des feuilletons, un feuilleton, des épisodes, une série. Hein. Mmh. Et c'est vraiment très intéressant de le négocier. Alors, par le passé, bah, c'était presque aussi important le taux de l'assurance emprunteur que le taux du crédit immobilier. Là, ça, vous payez plus, le prix de l'argent est plus cher que le taux de l'assurance emprunteur, mais ça reste quand même le deuxième poste le plus cher avec le prix de l'argent. Donc c'est vraiment très important de bien négocier son assurance emprunteur. Alors, le problème, c'est que vous n'êtes pas toujours en capacité de le faire, parce que le plus fort dans la conjoncture que nous traversons aujourd'hui, c'est bien sûr votre banquier. Vous êtes déjà très content quand il vous accorde votre prêt.
Et oui, c'est ça.
Donc vous n'êtes pas forcément en position de force.
Aujourd'hui, le banquier, il a toute l'attitude de vous dire, si vous prenez pas mon assureur, mon assurance, il n'y a pas de crédit, quoi.
Voilà. Donc je pense que vu la conjoncture, il ne faut pas hésiter. Quand votre banque veut bien vous prêter, vous signez, vous avez votre crédit, et après vous avez toute l'attitude de prendre votre temps et de voir si vous pouvez souscrire une assurance par ailleurs qui sera plus compétitive que celle de l'assurance groupe de votre banque. Et ce qu'il ne faut pas oublier, alors on s'imagine souvent que la délégation d'assurance, c'est-à-dire le fait de prendre une assurance ailleurs, c'est intéressant uniquement si vous êtes jeune, sportif, en bonne santé, non-fumeur. Alors, c'est vrai que, bien évidemment, c'est souvent le cas, mais ça peut être intéressant pour plusieurs classes d'âge. C'est pas parce que vous avez déjà 40-50 ans que c'est pas intéressant d'aller voir ailleurs si vous n'avez pas une assurance plus compétitive que celle de votre banque.
Et on rappelle que ce sont des sommes qui, certes, vont être économisés mois par mois, donc ça paraît pas grand chose d'économiser par-ci par-là,
ouais, quelques...
mais quand on les met sur le coût du crédit, ça peut compter en milliers, voire en dizaines de milliers d'euros d'économie.
Et puis j'ajouterai une petite astuce supplémentaire. Si vous faites un crédit peu élevé, si vous faites un crédit de moins de 200 000 euros, alors ça c'est finalement un effet pervers de la loi Lemoine, la loi qui permet justement de changer d'assurance emprunteur. Si vous empruntez moins de 200 000 euros et que vous aurez moins de 60 ans au moment où vous aurez fini de rembourser votre crédit, eh bien, il n'y a plus de questionnaire de santé. Alors,
ouais. Et du coup, les coûts se sont un peu renchéris.
Eh bien, évidemment, alors ça, c'est bien parce qu'il n'y a pas de formalité et ça permet à des personnes qui ont des soucis de santé d'emprunter sans problème. Reste que les assureurs, comme ils ne savent pas combien ça peut leur coûter, mais ils ont fait bondir le coût de ces petites assurances de 15 à 30%.
Et donc il faut parfois dépasser un tout petit peu ce plafond. Comme
voilà,
ça on
donc
a...
la petite astuce, c'est que quand vous avez à emprunter autour de 200 000 euros, il vaut mieux emprunter 201 000 que 199 000, in fine, ça vous coûtera moins cher.
Oui, parce que vous ferez le questionnaire de santé, il y a un peu plus de paperasse, mais du coup, vous aurez un taux, personnalisé.
Le taux risque d'être plus intéressant.
Allez, tout ça sera à découvrir vendredi, bien évidemment, à la une des Échos Patrimoine, en partenariat avec BFM Business. Merci beaucoup Marie-Christine.
Merci Cédric.
D'être passé nous voir.
BFM Business avec Les Échos, nos réponses pour bien gérer votre patrimoine.
Et dans un instant, c'est au tour de 90 Minutes Business de vous accompagner pour la mi-journée. Bonjour Sandra.
Bonjour Cédric.
Votre programme du jour.
On va parler de casino. La crise continue dans le groupe. Vous savez que l'action a été suspendue ce matin à la Bourse de Paris. On attend une éventuelle procédure de conciliation. Mathieu Pechberti va revenir dans les détails sur ce qui se passe ce matin. La tension est palpable aussi du côté des GAFAM au lendemain, vous savez, de cette amende record infligée à Meta, à Facebook. Eh bien, Sundar Pichai va passer à Bruxelles dans la semaine. L'étau se resserre autour des GAFAM. Les GAFAM femmes ont-ils, commencent-ils à avoir peur de l'Europe? On va en parler avec Frédéric Simotel. Et puis notre invité va nous aider à remplir notre déclaration d'impôt. C'est TaxMind. C'est un robot fiscal qui vous aide à remplir votre déclaration. Ça utilise l'intelligence artificielle. Ce sera notre invité dans un quart d'heure, Cédric.
Thématique qu'on redéveloppera ensemble demain, tout au long de la journée.
Journée spéciale, hein. Bien sûr.
On vous le rappelle, journée spéciale déclaration de revenus dans BFM Patrimoine dès 10h, dès 13h après avec 90 minutes business. N'hésitez donc pas à nous écrire bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Ça, c'est mon adresse et la vôtre.
Avec vous, @bfmbusiness.fr. Voilà. Pour tous les cas concrets, allez-y, posez-nous, on aura plein d'experts.
À demain et bonne journée.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.